Alors, ça a été annoncé là, dans 72 écoles de Saint-Michel, Parc Extension, Montréal-Nord, Chaumedey à Laval. Il va y avoir 72 écoles, donc publiques et privées. Il va y avoir dans ces écoles-là des tests rapides pour déterminer si un élève qui a des symptômes de la COVID est infecté. Fait qu'il commence à couler du nez. Bon, ben tu le sors de la classe, puis là, tu y passes l'écouvillon. Bon. Et puis là, tu sais s'il est infecté ou pas. Puis s'il l'est, ben, tu le retournes à la maison, puis tu gères ça pour éviter que le reste de la classe soit infecté, ou même le reste de l'école. Bon. Sauf que là, à matin, on se réveille, il y a plusieurs papiers. Les directions d'école à Montréal disent « c'est le bordel, on n'a pas été préparé, on n'est pas formé, on n'a pas le personnel pour s'en occuper ». Et là, le gouvernement annonce que c'est Daniel Paris, le responsable de la vaccination, qui va s'occuper aussi des tests rapides. Daniel Paris, bonjour.
Ben, bonjour, M. Drainville.
Bon. M. Paris, qui va les passer, qui va les faire passer les tests rapides aux élèves?
La manière que ça a été préparé, là, cette stratégie-là, c'est le personnel, c'est du personnel au niveau des écoles. Qui sont formés et qui devront justement faire les tests. Et c'est des tests qui sont faits, là, qui sont pas très compliqués à administrer. Ça prend quand même une certaine technique, par exemple. Mais c'est fait pour des gens non médicaux là, qui peuvent le faire.
OK, mais comment vous réagissez à la sortie de la porte-parole de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires qui dit c'est tout croche, votre patente à gosse. Puis ça fait déjà presque 3 semaines que le ministre de l'Éducation l'a annoncé. Puis on se demande comment ça se fait que les écoles, où il doit y avoir test rapide, n'ont reçu que vendredi passé la vidéo de formation. Comment ça se fait?
Je ne peux pas vous parler bien du passé, mais je peux vous parler moi, de ma visite que j'ai faite ce matin là, dans une école. Justement, où est-ce que j'ai pu voir le matériel qu'ils ont reçu. J'ai pu voir s'ils étaient aptes à faire le test de dépistage. Ils l'ont fait, je l'ai vu 2 fois. Et de cette façon, mais j'ai pu aussi échanger avec eux là, sur j'appelle ça les petites pistes d'amélioration qu'il aurait pu avoir, etc. Écoutez, le déploiement va se faire là, pas seulement dans la région de Montréal et Laval, ça va se faire à la grandeur du Québec au cours des prochaines semaines. Donc encore là, on va s'assurer là de prendre les commentaires qu'on a reçus, puis encore là de bonifier nos documents, puis s'assurer là que ça se passe bien partout au Québec.
OK. Et les écoles où il y aura test rapide, vous allez les identifier à partir de quels critères? Est-ce que ça va être le taux de vaccination? Comme ça a été le cas pour les écoles du nord de Montréal et de Chaumedey à Laval?
Dans l'ordre de déploiement, là, notamment, là, c'est soit la couverture vaccinale ou des fois, là, on va dire dans notre jargon à nous, là, quand ça chauffe, là, qu'il y a beaucoup de cas de COVID positifs. C'est 2 facteurs là, qu'on utilise qui peuvent nous aider, mais ultimement, vous savez pas, hein, si aux Îles-de-Madeleine, un jour, il va avoir des cas, etc. Fait que c'est pour ça qu'on planifie vraiment un déploiement provincial. Mais dans l'ordre là, où ce qui pourrait être plus utile rapidement selon la situation épidémiologique.
Donc, pour être bien clair, c'est le personnel scolaire qui va s'en occuper. Là. Il n'est pas question de faire rentrer dans les écoles où il y aura des tests rapides, de faire rentrer, mettons, du personnel de la santé publique ou du réseau de la santé. Ça va être les gens qui travaillent à l'école, les enseignantes, les éducatrices, par exemple, du service de garde, les techniciennes en éducation spécialisée, la direction, les secrétaires, c'est eux autres qui vont passer les tests rapides.
Oui, c'est en plein ça.
OK, parce que là, moi, je comprends quelqu'un qui dit on est déjà étiré au maximum, on manque de personnel dans les écoles, de demander à une enseignante de quitter sa classe puis d'amener un élève dans un local désigné à cette fin puis là, revêtir l'équipement protecteur parce que la personne responsable du test rapide doit prendre... doit mettre la jaquette, doit mettre les lunettes, doit mettre les gants. Bon, après ça, tu passes les petits écouvillons, puis après ça, tu attends les résultats et tout ça. Je peux comprendre que certaines directions d'école disent, écoute, on n'a pas le personnel pour le faire, ça. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
C'est sûr que c'est un défi. On le voit hein, au niveau des grands réseaux, là, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'éducation, que les enjeux de personnel sont réels. Mais il faut se replacer le test rapide dans qu'on se situe. Hein. Moi, je suis un papa, là, mais j'ai mon enfant qui coule du nez le matin, mais là, je n'en vais pas à l'école. Là. Je m'en vais dans un centre de dépistage. Fait que dans le fond, c'est des gens qui vont se mettre à couler du nez, des jeunes qui vont se mettre à couler du nez le jour. Fait que le nombre, il va en avoir. Mais le nombre devrait être assez sain si c'est bien utilisé. parce que c'est un outil supplémentaire. C'est pas la solution contre la COVID, là, c'est un ensemble de mesures. Mais encore là, ce matin, je peux vous dire, là, les gens dans les écoles, ce qu'ils nous disent, ils les veulent, les tests. C'est un outil additionnel pour la gestion de leurs jeunes. Et ils sont prêts là pour participer et d'apprendre puis de le faire. Mais c'est certain que ça prend du temps et ça va prendre quelqu'un des mains. Mais encore là, les écoles sont créatives. Moi, ce matin, là, ce que je voyais ce temps, c'est qu'il y a plus qu'une personne, il y a plusieurs personnes. Et pour le moment, ça va aller.
C'était une école de Montréal, ça?
C'était une école de la région de Montréal.
Bon. Je dois vous dire, je suis partagé, monsieur Paris. Je suis partagé parce que d'un côté, évidemment, je suis pour ça, l'utilisation des tests rapides. J'aurais souhaité qu'on le fasse plus vite, d'ailleurs. J'ai tellement parlé du problème de pénurie dans les écoles que je comprends le discours de dire, écoute, vous nous en demandez déjà beaucoup. Là, vous nous demandez en plus de faire le travail du personnel de la santé. Bon. Et par ailleurs, tous ceux qui témoignent disent, une fois que tu as appris comment ça se fait, ça peut se faire assez rapidement. Là, on parle grosso modo d'une demi-heure. Fait que je me dis, c'est une résistance au changement dont on va venir à bout au fur et à mesure où les écoles vont s'habituer, puis dans une couple de semaines, on n'en parlera plus. Vous comprenez, je suis comme partagé entre les deux discours.
Ah, et je suis pas en désaccord avec vous, mais c'est par la nature même d'un test rapide. Je donne un exemple. Si on aurait une infirmière dans une école, puis cette journée-là, il n'y a aucun test rapide, ce serait ça son travail. Puis il n'y aurait pas de test rapide parce que personne ne coule du nez, on va dire comme ça, personne n'a des symptômes, eh bien, ça serait pas une bonne utilisation de nos ressources. Fait que c'est ce qui rend un peu peut-être difficile là, la notion de bien identifier les gens, mais encore là, pour l'avoir vu, je tenais avec ça, mais pour l'avoir vu ce matin, dans le fond, la qualité de la personne qui le fait, c'est très bien. Et c'est sûr que ça va prendre plus qu'une personne par école, puis d'être capable de bien s'organiser. Mais moi, ce matin, j'ai vu la problématique, mais j'ai senti là, que les écoles vont trouver des solutions ensemble.
D'accord.
Et puis moi, bien, comme je vous dis, je regarde ça aussi pour essayer d'améliorer les choses dans les futurs déploiements.
Daniel Paré, donc, qui est le directeur de la campagne de vaccination contre la COVID et qui sera aussi le responsable du déploiement des tests rapides dans les écoles. Merci, M. Paré.
Et merci à vous.
Luc Lavoie.
Oui, Bernard.
Vas-y donc, ton commentaire, mon Luc.
Premièrement, au début de la campagne de vaccination, j'avais des doutes, puis ça va aller tout croche. La réalité, c'est que ça a été très, très bien. Franchement, là, comparé à tout ce qu'on peut comparer dans les États américains ou les provinces canadiennes, très bon job. Alors, cette fois-ci, il y a des questions qui sont soulevées, des problèmes de pénurie de main-d'œuvre et tout ça. Maintenant, moi, je pense que le même Daniel Paré qui a fait fonctionner ça jusqu'à maintenant est probablement la personne toute désignée, donc je ne suis pas trop inquiet.
Alors, quand tu entends des commentaires comme quoi, là où ça se fait, là, dans les écoles du nord de la ville et à Laval, c'est un bordel. Comment tu réagis?
Je réagis en disant c'est le début. Au tout début de la vaccination au Québec, il y a eu des ratés aussi, là. Alors, c'est le début. D'après moi, si le passé est garant de l'avenir, d'ici la fin de la semaine, tout ça va s'être placé.
Donc, tu t'inquiètes pas de ça. OK, Luc, on se reparle un peu plus tard.
Okay.
On s'en va à la pause. Au retour, on vous raconte l'histoire, une histoire qui est survenue dans un CHSLD. Et ça pose la question, comment on gère les cas d'éclosion, les cas d'infection dans les CHSLD là, avec cette quatrième vague-là? On le sait, on a perdu plusieurs milliers de personnes qui vivaient en CHSLD. Et là, on espère qu'on a appris de nos erreurs. Alors, on va prendre un cas qui est survenu. Et puis, je vous écoutez-le après la pause. Et si il vous est arrivé quelque chose qui ressemble à ça, si vous connaissez quelqu'un en CHSLD, puis il y avait une infection, une éclosion, vous pouvez m'écrire au 98-985 ou encore par courriel à Drainville à commercial 985fm.ca.